Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est d'ici que nous émettons aujourd'hui en public pour cette série d'émissions pour une ville nature, sous l'égide du programme Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union Européenne et le relais en France de Valor. Quelques mots sur Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Alors l'arbre en ville, ce dont nous allons parler aujourd'hui, est au centre de toutes les attentions. Pourtant, comme le rappelle l'ethnobotaniste Pierre Lieutagui dans un ouvrage clé, dont plusieurs références seront tirées durant cette émission, je veux parler des arbres dans la ville, l'urbanisme végétal, de Caroline Molly-Stefulesco, paru en 1993, il y a bientôt 30 ans chez Actes Sud et réédité à deux reprises, en 2009 et en 2020, faut-il le souligner, avec le concours de Cité Verte. Eh bien, Pierre Lieutagui commence ainsi son propos. L'arbre n'est pas citadin depuis toujours. Longtemps, les villes serrées dans leurs enceintes, aux rues étroites, en étaient dépourvues, ou s'en tenaient à l'arbre unique des places. Alors, s'il y a une dizaine d'années, le tout Paris ne jurait que par la végétalisation, on l'a entendu ce néologisme. Des plantes volubiles, aux murs végétaux, troncs et houppiers semblent avoir repris l'avantage. Quelques déconvenues médiatiques, la réalité du réchauffement climatique qui rattrape et bouscule les projections et un attrait renouvelé pour le symbolique, la vie secrète des arbres, pour reprendre ce titre du livre du forestier allemand Peter Wohlleben, ayant été révélé au grand jour, eh bien voici que nous sommes tous à vénérer à nouveau les arbres. Les programmes municipaux, notamment de 2020, ne s'y sont pas trompés. Un grand renfort de promesses de milliers d'arbres par-ci, de centaines de milliers par-là. La Commission européenne a proposé de planter 3 milliards, tenez-vous bien, 3 milliards d'arbres d'ici à la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici à 2030. Et le candidat, devenu président de la République, Emmanuel Macron, d'annoncer en mars son souhait de planter 2 arbres par habitant, soit quelques 140 millions de sujets, je parle de sujets végétaux, d'ici à 2030 aussi, en 8 ans. Donc, qui peut s'en plaindre ? N'est-il pas pertinent, pour ne pas dire futé, de s'arroger les services des futaies ? Seulement voilà, la ville est un milieu hostile, et le poète le chantait déjà en 1972 avec ces mots. Entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas, si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines, pour prison, et mes racines, on les recouvre de grilles, comme un arbre dans la ville. Certes, les branches volent bas, mais avec la réduction de la place du tout automobile et l'apaisement des circulations, qualifiées de plus en plus douces, le combat semble, en apparence tout au moins, moins intense. Mais c'est bien la partie immergée de l'iceberg qui nous préoccupe aujourd'hui. Les racines entre béton, bitume et les fameux voiries et réseaux divers, les VRD, ont bien du mal à se frayer un chemin. Si bien que la concrétisation des projets s'en trouve entravée, pour ne pas dire complètement arrêtée. La ville semble être devenue un vaste empilement d'infrastructures, inextricable, où le sol est lessivé, pour ne pas dire artificialisé, en tous les cas bien inhospitalier. Alors quelle est la situation ? Sans doute plus complexe que ne le dépeint ce gentil petit billet. Quelles sont les caractéristiques urbaines à prendre en compte pour élaborer un projet de plantation ? Comment planter dans la ville existante, en tenant compte de l'état des sols ? Pourquoi pas planter hors sol ? Que faire à l'échelle des pieds d'immeubles, côté privé ? Quelles sont les innovations ? Bref, ce sont beaucoup de questions que nous allons tenter, telles les racines indociles, de soulever. Pour en parler, je suis heureux de recevoir deux intervenants et avant de vous les présenter, générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Infrastructures vertes et réseaux divers, comment planter des arbres dans la ville existante ? C'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir deux intervenants. À ma droite, Pauline Lai, vous êtes chargée de mission à Plantes et Cités, qui porte notamment un projet sur les Réseau et à ma gauche, Michel Pena, qu'on ne présente plus, paysagiste concepteur, président d'honneur de la Fédération française du paysage, et je m'arrête là pour vos titres. Alors, je ne voudrais pas faire entorse à la bienséance, mais j'aimerais, Pauline, si vous le permettez, donner tout d'abord la parole à Michel. Bien sûr. Alors Michel, votre travail est nourri par la préoccupation d'inventer ce que vous dénommez une troisième nature, de trouver des artefacts pour tisser un lien durable avec le vivant. Une troisième nature qui, je cite, « reconstituera in fine une vraie nature ». C'est dans la préface de l'édition de 2009 du livre de Caroline Molly que nous citions tout à l'heure que vous l'indiquiez. Vous militez aussi pour une forme de droit à la poésie, à la rêverie, à l'éveil de sens pour jouer, mais surtout pour jouir du paysage, titre de l'un de vos ouvrages, paru en 2016 chez Anteprima. Vous êtes paysagiste concepteur, et en cela, en tant qu'ensemblier des espaces ouverts en ville, vous vous intéressez à l'histoire des villes et des paysages. Alors nous citions Pierre Liotagui tout à l'heure. Non, effectivement, il n'y a pas toujours eu des arbres dans la ville, et pas dans toutes les villes. Comment est-ce que vous pourriez retracer à grands traits les principales étapes de l'histoire de l'arbre en ville ?
Merci Pierre, et puis excusez-moi Pauline de prendre la parole en premier, mais oui, c'est une belle aventure qui démarre à Marie de Médicis. Et ici on est aux Tuileries, vous voyez, c'est un des premiers grands jardins. Marie de Médicis et Henri IV et Olivier de Serres évidemment sont les premiers qui se préoccupent justement d'une recompréhension, je dirais, de la nature, une réintroduction à l'intérieur de la ville. Les parcs existent, les Tuileries sont ouvertes aussi au public. Ensuite, vous savez que Louis XIV est le nôtre est quand même le jardinier du roi qui trace la plus belle avenue du monde, qui s'appelle, qui a le nom d'un paysage, puis ça s'appelle les Champs-Élysées. C'est quand même extraordinaire. Et c'est grâce à cette structure-là qu'au XIXe siècle ensuite, Alphand et Napoléon III et Haussmann tracent l'ensemble de l'architecture et de l'urbanisme de Paris à partir de grandes avenues plantées. Et ça, c'est vraiment une très, très grande innovation avec Barry et Deschamps pour s'occuper des plantations. Donc vraiment, on a une histoire de la progression, de la pénétration de l'arbre et de la nature dans la ville qui s'est faite progressivement au fur et à mesure aussi que la ville s'ouvre déjà, parce que c'est plus une ville fortifiée, c'est plus une ville bâtiment, c'est plus une ville architecture, ça devient petit à petit une ville territoire. Aujourd'hui, on est vraiment dans la pensée de la ville territoire. Quasiment tout le territoire de la France est devenu presque urbain, on pourrait dire, quasi urbain. Et moi, je pense en effet que l'arbre, sa première fonction, c'est d'être poétique. Je pense que la fonction de l'arbre, c'est d'abord la poésie. Ensuite, évidemment, on peut l'affubler de tout un tas de, ce qu'il a d'ailleurs, tout un tas de fonctions écologiques ou environnementales, de confort. Mais d'abord, c'est un être vivant qui nous fait du bien et qui, moi, me rassure, m'apaise et qui apaise la ville, qui lui donne de la douceur et de la sensualité, toute la végétation qu'on peut créer. C'est aussi un élément intermédiaire entre l'univers mort et technique de l'architecture et des machines que sont les voitures, et puis nous qui sommes chauds, vivants. Et donc cet intermédiaire-là, c'est un adoucissement, et c'est d'abord cet usage-là, je dirais. Et c'est un véritable ami urbain, on pourrait dire, l'arbre. Et c'est en ce sens d'abord que je pense l'arbre dans la ville.
Alors c'est un être vivant, c'est un ami, c'est un symbole. Il nous ancre aussi sur notre ville-territoire, plus ouverte, mais pour s'ancrer, il faut que ses racines puissent pénétrer dans le sol, même si c'est un sol quelque peu artificialisé. Et effectivement, si la ville n'est plus fermée, on peut se dire que, au moins vis-à-vis de ses réseaux, elle est assez saturée. Alors Michel, en 2009, toujours dans cette préface de l'urbanisme végétal, vous indiquiez « Il ne faut pas croire qu'il soit facile de planter des arbres dans la ville. Hein ». Vous indiquiez notamment, et c'est un écho à Maxime Le Forestier, quelques 20 années plus tard, un peu plus, même 30, « Nous agissons au cœur d'une contradiction. Bien que sollicité par tous, l'arbre ne cesse d'être réprouvé, exclu. Ses branches tomberaient sans cesse, ses ramures viendraient taquiner les lignes électriques et les caténaires des tramways, ses fleurs seraient de plus en plus allergènes, ses fruits toxiques, ses feuilles trop glissantes et trop coûteuses à nettoyer, ses frondaisons trop proches des façades, ses racines gêneraient les réseaux souterrains, son tronc abîmerait les voitures. » Voilà. Est-ce que vous changeriez beaucoup à ces mots de 2009 ?
Pas du tout. Non, je pense en effet que tout le monde dit aimer la nature, mais en fait, dès qu'on met vraiment de la nature en ville, c'est beaucoup plus problématique qu'on le pense. C'est pas seulement une question technique, c'est une question culturelle. C'est réellement accepter d'autres modes de vie, d'autres formes de vie à l'intérieur de son milieu de vie quotidien, d'éviter de transformer la ville en salle d'opération, je dirais, hyper hygiénisée, et dire que les petites bêtes, les araignées, les lézards, c'est pas vraiment agressif, même les moustiques. Ça m'est arrivé de planter, de me battre pour planter des plantes grimpantes le long de façades dans les rues de Nantes notamment, où on avait été obligé de couper un mail de platane. Ça a été un combat incroyable. C'est là que j'ai pris conscience que non, tout le monde adore la nature à la télé, quoi, qu'on regarde Ushuaïa. Mais en fait, en réalité, il faut changer de mode de vie. C'est pour ça que je changer de mode de vie, changer de mode de ville. Et que je pense qu'il y a un projet culturel. Et je dis qu'il y a un projet culturel autour de la beauté des plantes et du fait d'accepter qu'il y a d'autres modes de vie, qu'il faut accepter des concessions aussi. C'est pas une salle d'opération, la ville. La nature, ce n'est pas une salle d'opération, c'est aussi d'autres êtres à qui on laisse la parole. Et donc ça, je suis d'accord que d'abord, c'est un projet culturel, replanter la ville, rechanger le mode de vie et dans la ville.
Alors, changer de mode de ville, référence à un ouvrage dans la collection de Garden Lab que nous saluons, paru en 2021. Eh bien, s'il est symbolique, il a besoin, malgré tout, qu'on fasse une concession. Alors, je ne parle pas de concession funéraire, quoique nous allons entrer dans le sol, le vif du sujet, en nous intéressant précisément aux racines et aux réseaux qu'elles rencontrent. Il est important de noter que l'arborescence souterraine est plus ou moins réciproque au système aérien. Il y a d'ailleurs une illustration de Francis Allais, qu'on ne présente plus, le botaniste, illustrée dans le livre de Caroline Molly, qui montre un arbre en face à face, en vis-à-vis d'un homme. Et alors, c'est pas facile à l'oral de vous l'exprimer, mais le tronc équivaut au ventre, à l'abdomen, quand les branches et le houppier représentent le haut du corps, de la tête au cœur. Et les racines, ce sont les jambes. Voilà. Donc la tête et les jambes, hein, du nom de cette ancienne émission, c'est quelque chose d'équivalent. Or, ces racines, qui seraient nos jambes, sont confrontées en ville à beaucoup de réseaux. Et nous arrivons à vous, Pauline. Plante et Cité a initié un projet qui s'appelle Réseau racinaire et réseau enterré, quelle cohabitation possible en ville. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous nous expliquiez ce qu'est Plante et Cité pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'Institut technique de la nature en ville.
Oui, merci Pierre. En effet, Plante et Cité, c'est l'Institut technique pour la nature en ville. C'est un centre de recherche et d'expérimentation qui sert tous les professionnels de la filière. Nous sommes une association dotée de plus de 700 membres en France. Ce sont des collectivités territoriales, des entreprises, des bureaux d'études qui pensent, qui façonnent, qui réalisent, entretiennent la nature en ville. Pour tous ces professionnels, Plante et Cité contribue à rassembler les problématiques d'intérêt, mener des programmes d'études et diffuser les résultats, participer à des conférences, des formations.
Alors là, justement, tous les résultats ne sont pas rassemblés, donc il nous sera difficile de les diffuser, quoique il y a peut-être quelques éléments. Je voudrais d'abord que vous nous parliez du sujet, de ces fameux réseaux racinaires versus les réseaux enterrés. Qu'est-ce qu'on peut lister comme contraintes? Quelles sont les confrontations de ces réseaux racinaires et de voiries et réseaux divers?
Alors c'est une bonne question. Où se trouve la douleur exactement? Quels sont les symptômes qu'on observe sur le terrain? Ça s'enracine en partie dans ce que vous avez déjà exposé tous les deux, c'est-à-dire que l'arbre, pour toute la valeur qu'on lui confère, a une utilité, une importance particulière pour les habitants des villes. Les réseaux aussi. On a autant besoin de beauté, d'oxygène, d'air pur dans nos rues que d'électricité, de chaleur et de moyens de communication dans nos foyers. Les arbres et les réseaux, il se trouve que, malheur, ils vivent au même endroit. Dans l'espace aérien, ce n'est pas le sujet du jour, et dans l'espace souterrain. Le sol en ville, c'est un milieu très complexe et très compartimenté, et que donc les êtres vivants et les réseaux doivent se partager. Qu'est-ce qu'on observe en témoignage de cette situation? C'est une cohabitation difficile qui se traduit par des dégâts occasionnés tant aux racines qu'aux réseaux par les uns et les autres. Des dégâts aux racines, pourquoi, comment? Eh bien, dès lors qu'on veut intervenir sur un réseau pour régler une panne pour son entretien, dès lors qu'on veut poser un nouveau réseau, on fait quoi? On ouvre le sol. Les tranchées, c'est mortel pour les racines, évidemment. Dès lors qu'on coupe, on tranche dans le vif du sujet. On prive l'arbre de ses moyens d'ancrage et d'approvisionnement en eau, en matières premières et de ses moyens de communication avec ses congénères. Les réseaux sont aussi exposés aux racines. Certains des réseaux, donc il y a plusieurs catégories, hein, des réseaux secs, des réseaux humides, des réseaux rigides, des réseaux souples. Certains vont être plus vulnérables que d'autres et à certains endroits en particulier au niveau des branchements. On sait que les racines sont très opportunistes. Elles vont aller chercher la ressource là où elles se trouvent. Mmh. Elles vont chercher des matériaux meubles à coloniser, elles vont chercher de l'air, elles vont chercher de l'humidité. Mmh.
Donc un tuyau souple avec de l'eau dedans, il a de bonnes chances d'être colonisé s'il est un petit peu fragile.
Voilà, tout à fait. Dès lors qu'il y a une faiblesse dans le réseau, dès lors qu'il y a un environnement meuble, par exemple les remblais de tranchées sableux, ça va être des couloirs, des zones que les racines vont apprécier particulièrement coloniser. Et parfois, les racines se développent à l'intérieur même des réseaux. Parfois, elles vont, en grossissant dans des gaines, écraser certains réseaux. Donc voilà, les réseaux sont aussi vulnérables face au développement des racines.
Et ça, pardon, comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'arbre qui est défaillant et dont on voit le cri, ou est-ce que c'est les gestionnaires de réseaux, donc le gaz, l'eau, l'électricité, quand c'est l'eau, ça peut être réseau séparatif ou unitaire, donc les eaux pluviales, les eaux usées, qui crie le premier au problème ? Quels sont les témoins ?
Le risque finalement encouru, c'est l'interruption de service. Donc qui crie le premier? Ça dépend de la nature du problème. Ça va être l'usager qui est privé d'électricité, pour qui le réseau d'assainissement ne fonctionne pas bien, ou bien l'usager qui voit l'arbre auquel il tenait et qui lui confère de l'ombre, par exemple.
Et qui le voit dépérir.
Qui le voit dépérir plusieurs années après une intervention malheureuse, on va dire, ou bien qui doit être abattu parce qu'il y a une intervention urgente à réaliser. Parmi les symptômes aussi qu'on observe, il y a quelque chose qui se place plus en amont dans les projets d'aménagement, c'est la compétition pour l'espace. Dès lors qu'on veut planter un nouvel arbre, souvent on rencontre des difficultés parce qu'il y a des réseaux partout. Dès lors qu'on veut positionner un nouveau réseau, pareil, il y a des plantations dont il faut tenir compte.
Et alors, aujourd'hui, je crois, un certain nombre de réseaux sont géolocalisés.
Je
crois qu'en travaux, c'est plus facile pour éviter de heurter une gaine, notamment de passage de câble. Est-ce que ça, c'est constaté comme étant un progrès ?
Ou
au final, le réseau est là et ça empêchera toujours les racines ?
Alors ça, effectivement, on le doit à la réforme anti-endommagement qui a été passée il y a quelques années. Maintenant, les réseaux sont tous localisés. Il y a une classe en fait dans la qualité de cette localisation. Donc dès lors que l'on souhaite passer à la phase opérationnelle du projet, on va avoir un classement en fait des localisations de réseaux qui va nous dire ben là c'est sûr qu'il y a un réseau sensible du gaz par exemple, il faut faire très attention de l'intervenant. Donc si on veut faire une plantation, on va éviter d'aller creuser à cet endroit, par exemple. D'autres réseaux sont moins bien localisés et là il faut faire des investigations préalables, aller les détecter. Et il y a une question qui se pose, c'est où sont les réseaux racinaires? Cela, la réglementation évidemment n'en parle pas. Il y a des normes évidemment qui posent les règles de distanciation entre les réseaux enterrés et les réseaux racinaires, qui les protègent réciproquement, on va dire. Par contre, quant à la localisation des racines, évidemment, on ne sait pas où elles sont, sauf à mener des diagnostics préliminaires qui sont, malgré la qualité des experts qui interviennent, qui sont la plupart du temps des conjectures et qui doivent parfois aller même jusqu'à des investigations destructrices, c'est-à-dire on a alignement dans un projet d'infrastructure.
On va disséquer un des arbres et voir.
On dissèque un des arbres représentatifs, on voit où ils s'enracinent pour orienter le reste du projet.
Alors si on revient à votre programme réseau racinaire, réseau enterré, quelle cohabitation possible en ville, quels sont les objectifs de ce programme? Qu'est-ce que vous visez à travers lui, à planter cité?
Eh bien, nous cherchons à caractériser les différentes situations problématiques, à voir en pratique quelles sont les solutions mises en œuvre par les professionnels sur le terrain, tant pour les anticiper que pour les adresser lorsqu'elles surviennent. Et puis, l'aboutissement de ça, ce sera de créer une boîte à outils avec les références, les points de repère, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les racines, sur les réseaux, la réglementation, la jurisprudence, parce qu'il y en a, Les questions budgétaires aussi, hein, le nerf de la guerre toujours. Et puis des pistes d'action. Comment anticiper en termes de conception, mais Michel en parlera évidemment bien mieux que moi.
On va en parler dans quelques instants. Oui.
Quels sont les réflexes intelligents ou des expériences riches d'enseignement. Voilà, on veut rassembler un certain nombre d'outils de référence.
Et alors, pour constituer cette base de données, quels sont les acteurs qui sont mobilisés dans ce programme et que fédère Plantécité ?
Ce sont des professionnels qui représentent les métiers des arbres et les métiers
des réseaux. Voilà. Jusque-là, tout va bien.
Donc, des gestionnaires et propriétaires d'arbres publics, des experts en arboriculture, en pédologie, donc des arbres et des sols urbains. Ce sont des bureaux d'études dans ce domaine-là, des bureaux d'études VRD également, des exploitants de réseaux. Public et privé.
D'accord. Alors, avant de parler un peu de l'enquête qui vient d'être clôturée le 31 mai et dont vous pourrez peut-être nous dire quelques mots, je voudrais m'adresser à Michel, puisqu'on a parlé d'exemples et de situations différentes. Michel, vous en avez rencontré des configurations multiples et vous avez réussi à faire projet, c'est-à-dire à tracer un chemin au milieu de toutes ces contraintes et à proposer un sens, non sans poésie. Dans la dernière partie de la préface dont on parlait tout à l'heure, vous écriviez « C'est bien la place relative des uns et des autres qu'il faudra savoir composer dans l'espace fini ». Ça, c'est intéressant. Cet espace fini, c'est celui que vous avez eu l'occasion de côtoyer et de conjuguer avec pendant plusieurs décennies. Parmi vos réalisations, quels seraient les projets qui pourraient illustrer différentes stratégies de plantation dans des configurations très différentes? Alors, on pense à la promenade du Paillon, on pense au jardin atlantique, mais je ne vais pas tout dire, on retrouve ça dans vos ouvrages. Vous, spontanément, si vous citiez deux ou trois exemples différents, quelle était la problématique posée et quelle réponse vous avez pu, avec l'ensemble des équipes, apporter?
Oui, alors d'abord, merci Pauline, parce qu'en effet, c'est un travail absolument fondamental que vous faites d'analyse. Mais je pense qu'on est héritier aussi d'une dictature, c'est la dictature des VRDistes et de l'occupation de l'espace, de la colonisation de l'espace extérieur et du sous-sol par des enjeux strictement techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut en effet qu'on fasse des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que ce que fait Pauline et Plantécité, évidemment, ils essaient de résoudre des problèmes, mais qui sont conséquents d'une véritable dictature. Moi, je crois qu'il faut libérer le sol. Hein. C'est un slogan politique. Donc, il faut libérer le sol. C'est-à-dire qu'il faut, ce que je dis dans mon bouquin, ou plusieurs fois je le dis, il faut que chacun ait sa place. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les VRD, ils ont occupé tout l'espace. Et après, on se débrouille comme on peut pour passer entre les obstacles. Et ça, c'est absolument pas... Alors, je veux dire, aujourd'hui, il faut finir avec ça. Il faut que nous, on se batte pour dire, en effet, l'arbre, il a autant d'importance que le réseau d'eau. C'est tout. Donc, et il y en a un qui a commencé, c'est Jean Sel, le directeur des espaces verts de Nantes, qui a été suivi par Jacques Soignon, qui a été un vrai combattant. J'ai travaillé avec lui sur les tramways de Nantes. Et lui, il ne laissait rien passer. Et il s'est battu parce que c'était un homme qui était un homme de combat. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que dans les rues, il faut se battre dans la rue aujourd'hui pour planter des arbres. C'est ce que je dis. Donc la priorité, c'est évidemment que tout le monde saisisse l'intérêt fabuleux de planter des arbres dans la ville. Et non seulement ça embellit, mais en effet, ça crée énormément de conditions favorables à la vie commune. Et puis ensuite, il faut se battre pour réussir à garder l'espace. Dans l'espace du sous-sol, il faut que les réseaux ils soient limités dans des galeries techniques et qu'ils laissent la terre à elle, de côté, qu'ils ne touchent pas à la terre, qu'ils ne touchent pas à notre terre. Donc, non, je crois qu'il y a beaucoup de combats pour faire. Alors ensuite, en effet, les exemples, vous me demandiez, Pierre, les exemples les plus probants aujourd'hui, qui ont été vraiment des exemples expérimentaux, ça a été sur Nice, les rues végétales, la trame verte sur laquelle on a travaillé avec les services. Ça a été vraiment un projet passionnant qu'on a appliqué simultanément à Montrouge. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu deux maires qui ont eu la volonté politique de libérer l'espace de la bagnole, tout simplement, qui était omniprésente, qui avait colonisé l'ensemble de l'espace extérieur. Montrouge, il a supprimé toutes les places de stationnement. Donc,
ça veut dire que sous des places de stationnement, on a,
voilà,
des,
alors
on
je
a
termine...
moins de réseaux.
Alors attendez, sur Nice, non mais alors l'exemple, j'essaie de le systématiser maintenant sur Bordeaux, puisqu'on m'a demandé vraiment une mission passionnante aussi, de dire l'espace public, c'est hallucinant dans la banlieue bordelaise, c'est le royaume des BRD, quoi. C'est le royaume de la voirie. Non mais tout l'espace a été stérilisé, on a enlevé la terre végétale pour foutre des voiries, pour que les gens se baladent avec leur 4x4. Déjà, ils virent leur 4x4, hein. Le vélo, c'est absolument génial, Bordeaux, c'est plat, à peu près. Et donc, la logique technique...
Allez-y.
La logique technique, alors sur Nice et sur Montrouge, ce n'est pas la même, mais globalement, c'est de reconstituer des sols, c'est-à-dire des nappes pédologiques ou des tranchées pédologiques, pas faire des trous de plantation, parce que je me rends compte, moi, que les arbres sur le jardin atlantique, dans les endroits de troisième nature, ils ont mieux poussé que les arbres en pleine terre que j'ai pensé à côté. Donc, il faut arrêter avec la mythologie de la pleine terre, parce qu'en ville, la pleine terre, c'est le plein réseau, quoi, c'est comme bien de dire, ou la pleine merde, on pourrait dire, quasiment, parce que c'est que des remblais, que des cailloux. Donc
c'est-à-dire, pour bien reformuler, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on crée une continuité, voilà. Et pas des trous où on met terre végétale pas terrible.
Ce que dit Pauline, en effet, ce que disent Plantécité, il faut d'abord permettre au développement racinaire. Ça, c'est la règle de la règle. Il vaut mieux planter une graine dans un beau sol bien continu volumétrique que de planter un gros arbre dans un sol
contraint.
Où il ne peut pas se développer. Donc ça, c'est absolument, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc d'abord, il faut le sol. D'abord, le sol, c'est occupé par les réseaux. Le sol et l'espace. Bon, d'abord le sol. Et le sol sur Nice, par exemple, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a une voie bus qui a été libérée du fait que le tramway est passé en sous-sol. Donc là aussi, il y a une pensée sur les réseaux de circulation, parce que tout le réseau, toutes les communications en ville, il faut repenser en effet les circulations urbaines, en effet, pour justement libérer de l'espace, retrouver de l'espace. Et à Nice, les réseaux n'ont jamais été implantés sous la voie bus, pour la même raison que la voie bus, ils ne pouvaient pas du tout l'occuper lorsqu'ils faisaient des travaux. Donc, ils ont occupé les bas-côtés, quoi, les trottoirs. Et là, on a pu, du coup, replanter
dans
la voie bus. Lorsque la voie a été libérée, au lieu de redonner la voie aux bagnoles et aux parkings, on a dit, avec les services de la ville, avec le maire, on a dit, il faut absolument redonner aux piétons, aux cyclistes et à la végétation. Donc on a reconstitué des tranchées pédologiques très longues, très très longues et continues, 1,50 m de large, mais elles font 100 mètres, 200 mètres de long. Donc le système racinaire peut se développer très bien et on voit que les arbres sont heureux. Et puis mon but, moi, c'est de rendre les arbres heureux. Et je sais que si je rends les arbres heureux, je rends les gens heureux.
Vous rendez les gens heureux aussi. Donc il y a une perspective de travail avec les nouvelles mobilités dont on parlait tout à l'heure. Mobilité douce, c'est pas seulement protéger les frondaisons des accros avec les camions notamment, etc. C'est aussi trouver du sol, pouvoir constituer du sol en continu. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Comment est-ce que vous avez traité ce sujet de troisième nature sur le jardin atlantique? Là, on est sur Dalle, on est sur le toit de la gare Montparnasse et pourtant ça pousse.
Alors, allez voir le jardin atlantique, lorsque vous arrivez à Montparnasse, vous verrez, il y a des chênes qui sont devenus énormes. Bon, je les ai plantés il y a 30 ans. Mais j'ai réfléchi à ce moment-là, exactement à ce que dit Pauline, et Plantécité, c'est-à-dire au système racinaire d'abord. Donc, on avait des endroits où il n'y avait que 50 cm de terre végétale, des endroits où on pouvait mettre 1,50 m. Donc, c'était très variable, c'était conditionné strictement par la structure porteuse. Pas du tout par un projet de plantation, hein, par la structure porteuse. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité l'effet jardinière. C'est-à-dire de cloisonner justement les espaces de terre végétale les uns avec les autres. Et je vois les endroits où il y avait de très grosses épaisseurs, mais où cet espace était cloisonné, les arbres sont beaucoup moins bien développés, les mêmes arbres, les mêmes espèces plantées dans les mêmes forces, ils ont beaucoup moins cru, ils ont beaucoup moins grandi que les autres. Et on peut aussi aller faire un tour un jour et faire un bilan en effet de ce développement végétal lié au système racinaire qu'on ne voit pas. Et donc, il y a des endroits où j'ai fait des socles parce que je ne pouvais pas planter les mottes, il y avait trop peu de terre. Mais les socles, je les ai vidés par-dessous la hauteur de la terre et les racines se sont évadées. J'ai misé sur l'intelligence des arbres. Mais véritablement, il y a une véritable intelligence racinaire. Ça, on le sait bien, on voit bien, elles cherchent les racines. Et celles qui gagnent, elles se développent mieux que celles qui ne gagnent pas. Donc, elles ont trouvé les fissures à l'intérieur des socles que j'ai fait, des jardinières, des murs. Et tous les murs sont percés. Et il y a des séquoias qui poussent, des cèdres de l'Atlas qui poussent maintenant, des chênes pédonculés qui se sont développés dans des épaisseurs qui sont très faibles au bout du compte. Et on se rend compte que c'est surtout ça qui compte, c'est que comprendre la logique de l'intelligence de l'arbre, en fait.
Alors, c'est assez heureux de noter que Bordeaux Métropole est le nouveau nom de la cube. Oui. Vous allez casser le cube et amener un peu de désordre pour que les racines puissent s'évader. C'est assez intéressant ce que vous dites sur ce continuum pédologique. C'est un peu comme un biotope. Sauf que là, c'est le monde souterrain des racines et probablement de la cohorte de tous les êtres vivants qui les accompagnent. Alors, Pauline, j'en parlais très brièvement. Plantécité a lancé une grande enquête qui a été clôturée le 31 mai, donc prolongée.
Ah, oui, tout à fait.
Bien. Alors, ce sera peut-être pas évident de nous donner quelques résultats, mais à qui est-elle adressée en écho aux partenaires dont vous parliez tout à l'heure? Et puis, est-ce que vous avez d'ores et déjà quelques conclusions avant la remise du rapport officiel à nous donner uniquement pour les auditrices et les auditeurs de Pour une ville nature?
Donc, juste pour vos oreilles alors. Hein. Donc, cette enquête, elle est prolongée jusqu'à fin juin. Donc, tous ceux qui écoutent cette émission, il est temps. De contribuer, voilà, de nous aider à rassembler des informations. Les publics visés, ce sont ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui, les professionnels des armes, les professionnels des réseaux, qui sont concernés par cet enjeu de cohabitation.
Sans distinction, c'est-à-dire qu'on se connecte au même endroit et on peut répondre au questionnaire,
tout à fait,
quel que soit son profil.
Tout à fait.
Excellent.
Ce qu'on commence à voir, donc, on a dépouillé les premiers résultats. C'est d'abord que cet enjeu de cohabitation, il est très important pour tous les corps de métier. Là où on voit une hétérogénéité qui commence à apparaître, c'est sur les besoins d'outils, de connaissances pour adresser cette question. Et puis le niveau de connaissance vis-à-vis des racines. Donc les gens des réseaux connaissent très mal les racines. Les gens des arbres les connaissent bien, mais ils disent pas tous quand même suffisamment informés. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Et on sait que le système racinaire des arbres en ville, quand bien même on connaît sa fonction, il est insuffisamment connu. C'est-à-dire que les arbres, différentes essences vont avoir différentes manières de s'enraciner et qui vont être très sensibles aux paramètres de l'environnement. Ça contribue de cette difficulté dont je vous ai parlé tout à l'heure à essayer d'anticiper, prévoir, savoir où se trouvent les racines dans le sol pour prévenir les problèmes. Donc là, nous, Plantes et Cidées, ça nous donne des pistes d'action en termes de collecte d'informations, sensibilisation, essayer de positionner des modules arbres dans des formations travaux publics ou VRD, par exemple, et puis contribuer aussi à l'effort de recherche pour continuer toujours et encore à mieux caractériser, mieux connaître nos arbres. Il y a le sujet de la connaissance des sols et l'ingénierie des sols, Michel en a très bien parlé, qui ressort, notamment la question de peut-on, doit-on, est-il enfin temps de sortir de la notion de fosse de plantation. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été exposé. Et puis, si un exemple de sujet plus pratico-pratique, il y a la question de faire un bon usage des dispositifs anti-racines et de pas, quand bien même on plante soi-disant en pleine terre, vous le disiez Michel, de pas faire en fait une jardinière parce que
oui, parce au milieu de la pleine terre,
on abuse
par précaution abusive. Peut-être.
Voilà, c'est ça. Il y a des questions sur le contexte normatif. Dans quel cas est-ce qu'on peut y déroger? La question des protocoles qui peuvent être établis entre les autorités publiques localement et les exploitants de réseau pour se dire dans telle situation vous m'autorisez à planter à proximité de vos réseaux, dans telle autre je consens à abattre un arbre ou à modifier le projet de plantation si la situation le nécessite. La question de la concertation entre les différents métiers, d'être en mesure d'établir une culture commune à l'échelle d'un territoire ressort aussi très fortement, ainsi que les aspects financiers. Dès lors que les intérêts autour d'un projet montrent qu'il faudrait dévoyer un réseau, donc changer son emplacement, ou il faudrait mettre en place un système de protection particulier de ce réseau, qui en supporte le coût? Est-ce que c'est l'autorité qui plante? Est-ce que c'est l'entité qui pose le réseau? Ça, c'est pas évident. Puis il y a la question de la balance coût-bénéfice. Ce que commencent à nous témoigner un petit peu les répondants, c'est que quand on est en mesure d'anticiper, de prévenir les problèmes, de concevoir pour une bonne cohabitation, on économise énormément en frais d'intervention, en frais d'interruption de service après. Et puis il y a un intérêt marqué aussi qui ressort pour des pratiques de niche ou expérimentales que sont les techniques de terrassement douce par aspiratrice par exemple, les techniques sans tranchées pour pouvoir poser des réseaux sans forcément mettre en œuvre des fouilles qui vont être destructrices pour les racines. Et puis un intérêt, ça a déjà été évoqué pour les questions de détection, où sont les racines, et là c'est clairement un champ de recherche qu'il faut contribuer à développer.
Voilà. Donc c'est un chevelu racinaire dense avec des problématiques pas inextricables, mais c'est intéressant. On tire un fil qui en amène un autre. Le volet de la formation, ce qui est clé, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, à retenir, c'est que les spécialistes des arbres les connaissent, mais il faut rester très humble parce que par définition, on ne le voit pas. Et si on ne veut pas mener des investigations invasives et destructrices, on a du mal à avoir des modèles prédictifs sur le cheminement, le chemin en tout cas des racines. Donc il y a de la formation chez les acteurs des réseaux, mais aussi probablement chez les acteurs des arbres. Tout le volet conception, depuis la concertation jusqu'aux outils d'aide à la décision, et puis les techniques qui se développent. Un mot de conclusion pour chacun avec une question qui n'est pas tout à fait simple. Je vais citer à nouveau Michel dans l'ouvrage, le dernier paru chez Garden Lab, « Changer de mode de ville ». Vous indiquez que poser le paysage comme préalable à l'urbanisme, c'est prendre conscience de la valeur de la nature de l'existant et ne plus penser création mais transformation, infléchissement, évolution. Et vous parlez notamment, après avoir cité en référence Alphand, le maître d'œuvre de Napoléon III dont nous parlions tout à l'heure, qui était guidé quelque part par la structure de la forêt de chasse pour ses alignements, après les routes royales, les voies plantées d'alignement d'arbres qui pénètrent au cœur de la capitale, ce qui résonne quand même ici, hein, on l'a dit, on a parlé de Marie de Médicis, assez fortement ici aux Tuileries, vous parlez, cette expression que j'aime beaucoup, moi qui viens de la campagne, de remembrer la ville par le paysage. Alors, ma question pour vous, un peu ouverte pour chacune et chacun, c'est, alors que beaucoup, dans tous les métiers, appellent à la création d'infrastructures vertes pour matérialiser les solutions fondées sur la nature. La notion d'infrastructure, elle fait forcément appel au réseau. Alors, au-delà des combats et des rapports de force nécessaires dont vous parliez tout à l'heure, Michel, entre les VRdistes et les paysagistes, les solutions pour adapter la ville au changement climatique font souvent de l'arbre, au-delà du symbole, un vrai emblème efficace et pratique pour rendre ses services. Comment est-ce qu'on peut étendre le domaine de la lutte de la frondaison arborée dans cette ville existante? Quelles seraient les grandes pistes et qu'est-ce qui s'ouvre devant nous, de votre point de vue à chacun? Pauline, vous voulez démarrer?
Eh bien, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui ressort des exemples que vous avez exposés, Michel. C'est la volonté politique. Et je pense que c'est vraiment, vraiment déterminant. Et ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une somme de connaissances, de convictions qu'il faut continuer à partager, d'argumentaires qui sont de plus en plus fondés, partagés à travers toute la société civile. Et les VRdistes, ils vont continuer à construire des tuyaux, à poser des câbles. Par contre, pour la grande majorité, ils habitent en ville et ils sont eux aussi de plus en plus convaincus de l'intérêt d'avoir des arbres. Et si on, se réfère à des écrits comme vous l'avez fait en début d'émission, il y a le maire qui aimait les arbres, oui. qui pose très bien ce cadre-là finalement. Sur le temps long, la volonté politique fait vraiment la différence à l'échelle d'un territoire.
Petite fable appliquée aux villes, un peu en référence, en clin d'œil à l'homme qui plantait des arbres de Giono. Mmh. Le nom de l'auteur m'échappe, et puis Francis Allais aussi avait commis un ouvrage à l'attention des élus, hein, sur comment respecter la figure de l'arbre. Michel, vous aurez la conclusion après avoir fait le premier mot.
Merci Pierre, et puis merci Pauline. Évidemment, remembrer la ville par le paysage, ça signifie qu'il faut réussir à transmettre une autre vision de ce que peut être la ville. La ville, jusqu'à présent, quasiment, ça a été une ville vraiment technique, une ville architecture aussi, une ville minérale, une ville de pierre, une ville de béton, une ville construite et morte au bout du compte. Et nous, notre vision de la ville-paysage, c'est vraiment la série aussi qu'on initie avec Garden Lab, c'est vraiment l'idée qu'il y a une ville qui doit être plus riche, plus vivante, et dont le milieu de vie lui-même doit être vivant. Et ce milieu de vie, évidemment, c'est avec les arbres qu'on peut le constituer. Donc, l'idée que le paysage peut remembrer la ville, c'est aussi l'idée que la technicité, la bagnole, la fonctionnalité, la consommation à outrance a démembré la ville. Et ça, on le voit très bien. C'est-à-dire, elle a déconstruit. Moi, j'ai connu la place de l'Hôtel de Ville à Paris. C'était un parking quand même. Hein. Donc, tout était devenu des parkings. Tout était devenu minéralisé. Donc, aujourd'hui, cette reconquête, ça signifie quoi, Pierre? Ça signifie que c'est un projet politique. C'est un projet culturel d'abord, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à communiquer. C'est pour ça qu'on est là avec Pauline aussi, c'est pour en parler à tout le monde, en dire oui, c'est possible, yes, we can. Il faut réintroduire la nature dans la ville, pas seulement pour rafraîchir, mais parce que c'est une extraordinaire richesse, tout simplement. Ce n'est pas une richesse capitalistique, ce n'est pas une richesse économique, c'est une richesse de vie vivante, vitale et poétique, évidemment, culturelle. Et si on arrive à passer ces messages, c'est politique. Politiquement, les messages passeront et les rapports de force s'échangeront. Jusqu'à présent, évidemment, les ingénieurs, les techniciens, les fonctionnalistes, je dirais, ont eu tout pouvoir. Ils ont occupé tous les sols de la ville. Et après, nous, on se débrouille comme on peut pour planter nos arbres. Mais demain, il faut qu'on arrive à déplacer des réseaux pour planter des arbres, parce que c'est essentiel, c'est vital pour tous, pour nous tous, de planter des arbres.
Eh bien, la technique n'est plus au pouvoir. Ça me fait penser, vous parliez de liberté pour les racines,
oui.
À ce slogan du plateau du Larzac dans les années 70, « Faites la bourre, pas la guerre ». Et on va conclure là-dessus. « Freedom for Roots » pourrait être le nom de ce mouvement « Yes, we can », en verdissant les VRDistes, en faisant réseau entre VRDistes et paysagistes et en réhabilitant et en portant attention à notre sol, source de vie, de même que l'eau dont nous avons déjà parlé ici, le sol, les plantes, le végétal et l'ensemble des milieux qu'il constitue pour les êtres vivants. C'est fabuleux. Merci. Cette émission vous était présentée par Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne, par le truchement de l'interprofession Valor, les représentants du végétal, des fleurs et du paysage en direct de Jardin Jardin aux Tuileries. Merci Pauline Lai, chargée de mission à Plantes et Cités. Et merci Michel Pena, paysagiste, qui va s'atteler, comme Giono le racontait dans son livre, à planter 1 million d'arbres à Bordeaux Métropole. Rendez-vous dans quelques années à peine pour abreuver les premiers sillons de ces plantations. Voilà. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout restons en lien avec la réécoute sur radioterritoria.fr et radio.imo.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.